Vous écoutez
RMC.
23h18, Walid Acher, Chourella, Florent Gautreau, Aurélien Tirsain au stade. On enchaîne avec Francaise tout de suite. On reparle à Lucien Riquet ensuite. Mais là, Francaise vient de s'asseoir, donc écoutons le début de sa conférence de presse.
35 minutes de passé. Je regarde d'abord la globalité du match et le contenu du match. Parce qu'il faut essayer de l'analyser comme ça, même si c'est pas toujours facile à chaud. Et ce qu'on voulait faire, on a réussi un certain nombre de choses. Voilà. Après, évidemment. Récemment, je parlais de notre manque de rigueur sur certaines situations, surtout face à ce type d'adversaire. Bah, dès que vous lâchez une gestion de profondeur, dès que vous lâchez ou vous n'êtes pas parfaitement en marquage ou vous ne cadrez pas suffisamment le centreur, avec ces joueurs-là, de ce niveau-là, vous pouvez vous mettre en difficulté. C'est ce qui s'est produit, mais je dirais que dans la globalité, je pense qu'on a quand même fait un gros match. On a même eu la balle du 3-2. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. Je pensais moi d'ailleurs qu'elle était dedans. J'avais pas vu Pacho revenir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs ce soir.
Tu avais demandé aussi de l'intensité que tu n'avais pas vu sur les derniers matchs de préparation. Là, il y en a eu un peu quand même.
Ouais, mais c'est parce qu'on a été aussi mieux organisé, je pense. Parce que l'intensité, si vous êtes à 5 mètres, vous mettez de l'intensité, mais quand vous êtes toujours à 5 mètres ou à 10 mètres. Là, on était quand même beaucoup plus, en tout cas une bonne partie du match, beaucoup plus compact, avec en fermant bien l'intérieur, en isolant leurs joueurs de percussion, de couloir, en essayant en tout cas. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi, voilà. Puis après, il y a eu de l'intensité et aussi de la justesse sur certaines transitions offensives. Contre Paris, on se doute quand même qu'on va pas être en attaque placée tout le match. Donc il faut aussi avoir cette justesse. Puis après, il y a eu des sorties aussi intéressantes. Mais c'est pour ça que je répète, je pense qu'il y a plein d'éléments positifs dans le match de ce soir. Le seul, peut-être, c'est de ne pas l'avoir gagné.
Sur le plan technique, on a vu aussi par exemple Esteban De Paul qui a gardé beaucoup de ballons. On a l'impression qu'il a déjà passé un quart. C'est peut-être là où il pouvait progresser dans le jeu, sous pression. Il a fait plutôt un match solide là, ce soir.
Ouais, alors je suis exigeant alors que je pense qu'il aurait pu en améliorer encore quelques-unes. Même si c'est vrai, mais je pense qu'il y a encore quelques-unes qui peuvent encore rester.
Alors voilà pour Francaise. Là aussi, on va revenir sur rien dans quelques instants. Alors, juste Walid, précision. À Ligue 1 Plus, Luis Enrique a parlé du coaching.
Oui, ils ont posé la question sur Ousmane Dembélé. Parce qu'il n'y a pas eu de question pendant la conférence de presse. Et il dit, le football, c'est comme ça. Le PSG n'a rien gagné. Rien. Il n'y a pas de crédit au PSG. Si tu penses à ce que tu as gagné, tu ne gagneras plus rien. Tu dois montrer chaque jour, chaque match que tu es prêt. On doit gagner tout le temps. Et pour gagner tout le temps, tu dois sortir de ta zone de confort.
Ah, donc il y a un message là.
Ah oui, mais là, de toute façon, on l'avait senti. Je sais pas ce qu'en pense Flo, mais on l'avait senti déjà dans la conférence de presse, et même dans ses choix. Mais on a le Luis Enrique Dark. Hein. Là, on a le retour du Luis Enrique Dark, hein, moi je trouve.
Ouais, mais on a surtout le Luis Enrique qui effectivement fait passer des messages. Il va pas te dire. Il va pas te citer Dembélé et Guevara, il va pas les mettre en bouc émissaire, mais il va dire non, c'est pas le même match qu'à Lens parce que là on n'a pas été bon. Donc quand on n'a pas été bon, c'est la première mi-temps. Deux, il parle mercato et banc. C'est rare qu'il dise autant, tu vois. Le mercato a été bon. Il parle des recrues, il parle du banc. Il a dit le banc, donc c'était le banc.
Ouais.
La fouille de match, c'était la feuille de match. Non mais trêve de plaisante, trêve
la
de
fouille. Il progresse en français en plus.
Ouais, non, mais il est à l'aise. Non mais je me moque pas. Non, mais en revanche, c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu regardes où va son regard. Là, il a dit à tous les titulaires, j'ai parlé du mercato, j'ai parlé du banc de touche, tu vois, il aurait pu ne pas le faire. Et effectivement, comme dit Walid, c'est un message, mais je dirais pas Dark. Apparemment, il est revenu, tu sais, on a dit qu'il a pris, je sais plus combien de semaines de vacances, il est revenu comme une balle, apparemment, à Poissy, tu sais, avec un message ultra ambitieux, ultra, enfin, tu vois, le mec, il est à 400 dès la première journée. Donc là, si tu veux, lui, il perd pas de temps. C'est vrai que on a vu tellement de coachs qui attendaient avant de sortir les mecs, qui faisaient leur changement.
Il y a beaucoup de coachs qui auraient pu faire de la calinothérapie. Moi, je suis content de ça. Hein. Moi, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Mais après un deuxième sacre, très peu de vacances après la Coupe du Monde. Voilà, ça reste un match contre Rennes. J'ai confiance. En fait, il y a deux modèles. Il y a deux modèles de management. Et là, je trouve que quand je dis dark, c'est pas péjoratif, mais c'est le Luis Enrique exigeant. Parce que si nous, même les observateurs, on était aussi critiques que Luis Enrique, par exemple, sur ces joueurs-là, on se serait fait dézinguer par tout le monde. Ah, comment vous pouvez dire ça? Le PSG, lui, endosse ce rôle-là. Et moi, je reste persuadé, c'est un sentiment que ce deuxième sacre pour Luis Enrique lui a donné encore plus de responsabilité dans ce club et beaucoup plus.
Et de légitimité pour faire ça.
Légitimité pour faire ça. Et qu'aujourd'hui, il va encore prendre encore plus de place, même dans sa communication et en ayant plus d'exigence, parce qu'il doit faire passer des messages. Lui, je pense, Luis Enrique, qu'il veut rester encore longtemps au Paris Saint-Germain et qu'il y a peut-être un PSG 2.0 qui est en train d'arriver. Peut-être que Dembélé, c'est sa dernière, je ne sais pas. En tout cas, lui, il doit continuer à donner cette direction.
Mais le génie de Luis Enrique, c'est aussi que sur les petites vidéos inside, on le voit justement faire de la calinothérapie. Il fait des petites blagues, il est assez rassembleur, paternel avec les joueurs, donc il peut se permettre de leur taper sur les doigts avec la légitimité qu'il a acquise, celle du meilleur entraîneur peut-être actuel. On parle souvent de comparaison avec Pep Guardiola, mais seul lui peut-être peut se permettre aujourd'hui de faire sortir un ballon d'or, et ça fera pas plus de vagues que ça.
Et après, c'est vrai que sur la façon dont il fonctionne, là. Par exemple, dans le match de ce soir, mais même en règle générale, regarde bien, on parle beaucoup là de Kvara Dembélé parce qu'ils sont sortis à la mi-temps. Mais si tu regardes le début, la feuille de match, Lucas Digne versus Lucas Hernandez, Lucas Digne, moi je l'ai trouvé très moyen sur ses centres dans le match contre Lens, il est sur le banc.
Mayulu hors groupe.
Donc si tu veux, il y a plein, si tu regardes ne serait-ce que la compo de départ, même Akliou, j'ai envie de te dire, Akliou, je peux prétendre être titulaire dans un match comme celui-là. Tu vois, après tout, sur les niveaux de forme, pour l'instant, il n'est pas titulaire. C'est-à-dire, pour l'instant, tu passes derrière ceux qui éventuellement sont même pas
titulaires. Akliou, j'étais sorti à la mi-temps d'un match, je crois, soit Aston Villa, soit Lens, où j'avais même trouvé ça un peu sévère. Je crois que c'est Aston Villa, il sort. Tu peux même rajouter. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de Ferran Torres, mais le grand gagnant, c'est Fabian Ruiz. Et au milieu de terrain, il sort les deux Portugais. Voilà. Aujourd'hui, je pense que Luis Enrique tape du poing sur la table et il veut mettre les points sur les i sur son effectif en disant les gars, c'est très bien ce qu'on a.
Alors
fait.
Les gars, le temps passe. Il est déjà 23h24. On va reparler du PSG lors de l'évaluation. Mais là, ouvrons le dossier René quand même. On a entendu un Francaise, évidemment, il est un peu contrarié. Il menait 2-0. Il se dit, c'est un gros coup battre le PSG. Il se fait rejoindre, il a la balle de 3-2, donc il est un peu énervé. Mais enfin, je pense qu'avec le recul, 2-2, il sera content quand même.
Elle est dingue cette balle de 3-2 au passage. Et au passage, d'ailleurs, juste quand même, et ça va permettre de parler de Rennes aussi, le petit regret, je ne dis pas que c'est facile, tu mènes 2-0 un peu miraculeusement en termes de stats, mais tu mènes 2-0 et c'est très bien. Tu tiens finalement le PSG, comme on l'a dit, et Aiz est énervé parce que, comme je vous l'ai dit, sur cette petite balle au-dessus de la défense, c'est pas l'action la plus construite du PSG et ils se sont fait avoir là-dessus en vitesse, en loose day. Mais Rennes, dès qu'il y a eu 2-2, s'est remis un peu à attaquer et assez facilement à percer le PSG. Et moi, je pense que le seul regret de Rennes, c'est le fameux, maintenant on dit plus l'important c'est le deuxième, si on dit l'important c'est le troisième but. Alors évidemment, marquer 3 buts au PSG, ça paraît fou, mais ils avaient peut-être les moyens d'être un peu moins attentiste, en tout cas à 0-2. Voilà, c'est peut-être.
Et t'as si parlé du banc de touche, on les a vus physiquement tirer la langue en deuxième période. Issa Soumaré, c'est la déception de la soirée rennaise.
Tu m'avais dit,
les deux ailes avec Moussa Tamari et surtout Issa Soumaré.
Je me souviens que j'ai demandé à Walid, parce qu'il suit beaucoup le Havre, j'avoue, j'avais pas vu tous les matchs de Soumaré, mais sur les stats, j'étais intéressé. Quand il est arrivé à Rennes, très grosse déception techniquement. Très gros déchet, très mauvais match.
Mais Rennes, ils ont les moyens de marquer le troisième avant, parce que Najida, il a fait des progrès énormes quand même dans la conduite de balle, mais ils paniquent quand il arrive dans les 16 derniers mètres. Rennes peut mener 3-0 s'ils sont aussi cliniques que sur leur contre mi-temps. Donc.
Soumaré, si tu t'arraches les cheveux avec Altamari, qui au passage a fait une très belle talonnade
à côté, il avait l'air bon.
Tu vas t'arracher les cheveux sur Soumaré.
Ah non, mais ça y est, c'est fait. Pour moi, c'est que techniquement, je dis pas que le gars va pas réussir des trucs dans la saison. Techniquement, il passe un cap de club. Il passe un cap de club. Je pense que techniquement, il n'a pas le niveau là du stade rennais qui veut jouer.
Moi, j'étais surpris de le voir à Rennes. Hein. Mais après, c'est un joueur qui a des qualités.
Tu m'avais dit d'ailleurs.
Mais j'étais surpris.
Quand tu vois le
Tu sais qu'il y avait Lens dessus aussi.
Il a des qualités.
Mais moi,
là, tu vois, aujourd'hui, il y a son match. Après, je pense qu'il en fera des meilleurs. Mais il n'y a rien qui est allé dans ce match. Mais après, pour revenir sur le problème technique, dans tous les matchs qu'on a vus ce week-end, j'ai vu des entraîneurs ambitieux, tu vois, même avec les petites équipes. J'ai vu un très bon OCR, j'ai vu un bon Angers, etc. Sauf que les mecs, techniquement, ils n'ont pas finalement les effectifs à la hauteur de leurs ambitions. Et je te dirais presque, je ne veux pas dire que je souhaite des entraîneurs bloc bas et qui font rien, hein, mais c'est presque compliqué. On a réclamé ce genre d'entraîneur pour toutes les équipes. Mais la différence quand tu rencontres en face, quand tu as en face un Lille, quand tu as en face un Monaco, quand tu as en face un Paris, quand tu as en face, etc., un Lens, c'est trop compliqué. Qui plus est quand tu prends un rouge, alors là, je ne te dis pas. Mais tu vois, il y a cette, c'est un débat qu'on aura peut-être dans d'autres affaires.
Après techniquement, mais... moi, je trouve que sur la première mi-temps, Rennes, dans ce qu'ils ont eu à faire, ça a été quand même propre.
Non, mais je parlais de la deuxième oui, et du banc de touche dont parlait Aurélien. C'est-à-dire que là, quand tu fais rentrer Merlin, c'est compliqué. Mais... Tu vois, Najida a pris sa place, hein, faut quand même le dire au passage. Ouais. Merlin, c'est compliqué. Domar Colino, c'est un jeune joueur, bon, peu importe, mais je veux dire par là que le banc de touche, on a assez souligné, évidemment, le banc incroyable qui a rentré ce soir, les joueurs qui sont rentrés côté PSG, mais le banc de touche côté Rennais, c'est ça la clé
de
ce
match. Mais t'envoies quand même un message positif ce soir du côté de Rennes. Oui. Tu parlais de la défense centrale, Boudlal, Creswell, ça va être solide, Samba, très bon gardien.
Samba,
attention,
avec Boudlal, c'est pas sûr qu'il reste. Hein.
Oui, enfin, s'il reste.
C'est un des, enfin, Arnaud Pouille nous a dit que ça faisait normalement partie des intransférables avec Samba et Esteban Lepaul, mais après, Creswell, moi, je l'ai trouvé excellentissime en première période. La deuxième, par contre, charrette monumentale. Dès qu'il fallait se retourner, c'était ultra dur. Bon, après, face au PSG, il faut effectivement tenir. Mais c'est vraiment le genre d'équipe de Ligue 1 avec Rongier, Szymanski, Thomasson. Là, tu sens qu'il y a du QI foot. Ça peut passer au travers sur certains matchs. Mais là, tu sens que c'est une équipe qui va jouer top 5.
Le vrai souci, c'est que, alors, défensivement, il y a une question. Et effectivement, il faut savoir si Boudlal reste. Et si c'est pas le cas, faudra voir. Parce que la charnière, c'est un vrai sujet à Rennes. Global, depuis plusieurs saisons, Roux est passé au niveau. Les fameuses saisons avec Aguerd, c'est compliqué. Donc si Creswell avec Boudlal, ça marche comme ce soir, globalement c'est quand même plutôt pas mal. Et après, en revanche, c'est devant pour épauler Lepaul. Moi, je ne vais pas faire de fixette. Altamari n'a pas fait un mauvais match et j'ai vu sa talonnade. Elle est décisive, elle est très intéressante. Voilà. Moi, vous savez ce que je pense d'Altamari, comme un peu pour Soumaré. C'est des joueurs trop limités techniquement. Je vous dis entre nous, Aize pense la même chose. Sauf que les dirigeants lui ont dit on va garder Altamari, alors que Aize, lui, était plutôt enclin à s'en séparer parce qu'il veut aider Lepaul et il faut mettre plus de qualité autour.
Ça reste un joueur positif quand même, Flo, moi je trouve.
Ah, bien sûr. Ouais. Mais je te dis toujours pareil, il faut être exigeant, tu vois, avec ce genre de club. Et donc je dis pas qu'Altamari est un mauvais joueur, je dis juste que si tu à Rennes, tu veux avoir une attaque digne de ce nom, et puis dis Soumaré Altamari autour de Lepaul.
Mais là tu regrettes Mbolo, non, un petit peu, parce que finalement le duo Mbolo Lepaul, c'est aussi peut-être ce qui a permis à Lepaul de marquer 21 buts en Ligue 1. De toute façon, United, c'est officiel depuis tout à l'heure.
Là. Il manque effectivement pour moi là un gros attaquant ou un complément si tu veux.
Mayenda, c'est 22 millions, mais c'est censé être le numéro 2 de Lepaul.
Dans un instant, on aura Fred qui est supporter de Rennes, il donnera son avis, on va faire une évaluation ensemble. Ensuite, on parlera des autres matchs de Ligue 1 du jour. On ira en Espagne où le Barça a définitivement battu Elche 5-0. Donc Barcelone démarre très bien la Liga là aussi.
Gilbert, j'ai un petit message d'Esteban Lepaul qui me confirme que la célébration, c'est bien un hommage à sa nouvelle passion qui est le golf. Gilbert, qui nous rassemble aussi. Tu le sais, ça, je te l'avais dit.
Il a fait
un swing de golf, tu sais, sur son but. Mm-hmm. Et deuxièmement, je lui ai demandé ce qu'il pensait, quoi, de ce résultat. Il a dit plutôt satisfait quand même parce que c'est le premier match de la saison. Voilà.
La connexion golf de Florent Gautreau, c'est énorme.
C'est fort.
Ouais. Voilà, rendez-vous au trou numéro 18 à 6 et Blossac.
Exactement. Un petit point sur le tennis. Antoine Brard suit le match Fistiafo. C'est la finale du Master 1000 de Cincinnati. Et pour une fois, on a un Français en finale. Donc on le soutient. Antoine, où en est-on?
Et bien, c'est beaucoup plus compliqué pour le Français dans ce deuxième set. Il avait remporté la première manche 6-3. Et bien, il est mené dans ce deuxième set 4-1. Voilà, beaucoup plus compliqué. Le match est emballé, les échanges sont beaucoup plus courts. Et ça réussit à l'Américain Frances Tiafoe qui va là même avoir deux balles de double break. Il pourrait être double breaké et donc mener 5-1 s'il réussit à en convertir au moins une. Et donc voilà, c'est compliqué pour Fils qui va serrer. On se dirige certainement vers un troisième set pour essayer de remporter son tout premier Masters 1000.